Vous écoutez
RMC. RMC Rotten Régal.
Européen.
Alors on salue nos correspondants de Ligue 1 qui d'habitude sont là pour le multiplex Ligue 1 à 19h. Ils sont tous en train de se reposer.
En repos.
Ils sont remplacés par nos spécialistes du foot européen. Julien Laurence en Angleterre. Salut Julien.
Salut à tous.
Polo Breitner pour l'Allemagne. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Jean-Louis. Bonsoir tout le monde.
Et Johan Crochet pour l'Italie. Salut Johan.
Bonsoir à tous.
Alors on va revenir avec vous sur l'actu de vos sélections évidemment et sur votre actu du moment, mais d'abord quand même ça va être intéressant d'avoir votre avis et votre point de vue de vos pays respectifs. La France est-elle, reste-t-elle le favori numéro 1 pour l'Euro? 32-16 pour en débattre. Jérôme, tu réponds oui ou tu commences à avoir des doutes de plus en plus vu la progression de certaines sélections, et est-ce que tu vois des bleus?
Ouais, bon, la progression, après ça n'empêche que les matchs, quand ça compte, la compétition, il y a une préparation qui est tout autre, et donc tu peux pas trop imaginer ce qui peut se passer à travers les dernières prestations des équipes. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France sera logiquement favori pour l'Euro parce qu'elle est championne du monde, et donc ça, il faudra l'assumer. Après, de là à dire, on l'a encore dit sur la première heure, que l'équipe de France domine son sujet, maîtrise tout. Non, il y a des manques. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que les manques, c'est surtout contre les petites équipes qui sont très regroupées. Après, quand tu regardes les dernières prestations contre des grosses équipes, l'équipe de France a souvent été là, quoi. Ouais. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'elle part encore avec de l'avance sur les nations dont on va parler avec Polo, Julien et Johan.
Captain, tu veux ajouter un mot?
Tout simplement, oui, elle est favori puisqu'elle est championne du monde. Est-elle la meilleure actuellement? Non, incontestablement. Ouais. Ce n'est pas la meilleure sélection européenne.
Tu citerais qui comme meilleure sélection?
Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que l'Allemagne s'est refait une santé. Ouais. Je pense que l'Italie revient en bon niveau. J'imagine qu'un jour la Belgique confirmera le talent de ses joueurs. Je pense que l'Angleterre est aussi revenue une grande nation, une grande sélection. Il y a beaucoup. Ouais,
ça fait longtemps qu'on le dit, ça aussi. Hein.
On va en parler avec Julien dans une seconde, mais juste sur ce point de vue, la France favorite, c'est le cas dans vos pays respectifs aussi, messieurs, Polo en Allemagne?
La France a une énorme cote depuis quelques années, on va pas revenir à 1998, mais ce qui plaît énormément en Allemagne, un, c'est le sélectionneur qui est très critiqué chez nous, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de style de jeu évidemment, mais c'est qu'il est quelque part un peu allemand, j'ai parlé des Allemands des années 70-80, c'est qu'il a transmis à ses joueurs cette volonté de systématiquement gagner, et ça fait beaucoup beaucoup parler en Allemagne. D'ailleurs, il y a un énorme respect entre Didier Deschamps et Joachim Löw d'ailleurs à ce niveau-là. Et si tu veux, la France aujourd'hui est la référence, parce qu'ils sont évidemment, comme l'a dit Captain, ils sont champions du monde, ils sont champions du monde, oui c'est ça, et ils sont dans le groupe de l'Allemagne, ne l'oublions pas, mais ça se joue en Allemagne. Et donc si je m'arrête juste à ta question, en effet la France est considérée comme le favori pour l'Euro 2021.
Même chose en Italie, Johan?
Même chose, ouais, c'est clairement, l'équipe de France est clairement la favorite. Je regardais un petit peu les enquêtes qui étaient faites, et la France arrive tout en haut, un peu devant l'Angleterre et la Belgique. On parle pas trop de l'Allemagne et de l'Espagne en Italie. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Polo, vous savez qu'en Italie, Didier Deschamps est très connu, est passé par le championnat italien, et cette culture de la gagne, comme on l'appelle un peu habituellement, ça plaît beaucoup aussi aux Italiens, et ça fait un argument supplémentaire, parce qu'il y a le réservoir de joueurs, il y a le fait qu'ils soient évidemment champions du monde, il y a le vécu ensemble qui est très important, comparé à l'Italie par exemple. L'Italie n'était pas la Coupe du Monde 2018, la France l'a gagnée, donc il y a un vécu international qui est beaucoup plus important en France qu'en Italie, donc c'est clairement l'équipe favorite pour l'Euro.
Et côté anglais, Julien, pour conclure le tour?
Même chose, favori chez les bookmakers, déjà en tout cas certains bookmakers, favori aussi chez les observateurs, les journalistes et autres joueurs, entraîneurs. C'est vrai qu'elle impressionne par son efficacité, pas par le style de jeu, mais ça ils s'en fichent les Anglais un petit peu, mais par l'efficacité et puis bien sûr par Kylian Mbappé. Les Anglais partent du principe qu'une équipe avec Kylian Mbappé, elle doit être favorite pour toutes les compétitions pour lesquelles elle va jouer. Donc, voilà.
Alors, Julien, la sélection anglaise, donc, bon, victoire 5-0 sur Saint-Marin, ça c'est peut-être pas forcément le match le plus révélateur, mais est-ce qu'on parle toujours d'une génération prometteuse, ou est-ce qu'il y a eu, il y a cette Ligue des Nations qui a un peu douché tout le monde?
Non, alors la Ligue des Nations, effectivement, c'était une petite déception, surtout après la Coupe du Monde et surtout après la Ligue des Nations précédente. Mais il y a une génération dorée qui se détache, notamment offensivement. On en a parlé un petit peu hier soir dans l'after. C'est vrai que les choix pour Gareth Southgate en phase offensive, chez les joueurs offensifs, entre Kane bien sûr, mais aussi Sterling, Sancho, Rashford, et puis après tous ces jeunes ou moyens jeunes, on va dire, les Grealish, les Foden, les Mount, les Jude Bellingham, même si lui peut jouer un peu plus défensif, mais qu'on a vu hier pour sa première sélection. Le jeune de Dortmund de 17 ans qui a un talent fantastique. Il y a tous ces joueurs à disposition de Southgate. Le point d'interrogation reste encore effectivement la capacité que Southgate va avoir à trouver la bonne formule, à faire les bons choix parmi tous ces joueurs-là, parce qu'il a un réservoir fantastique. Et après, si effectivement ça commence à prendre, les Anglais vont y croire. Mais Polo a fait rire tout le monde hier en disant que les Anglais sont toujours le maillot jaune de la première semaine du Tour de France. Et c'est vrai qu'en général, ils font une très bonne campagne de qualification. Ils commencent en général plutôt bien, et puis après c'est beaucoup plus compliqué pour eux, c'est vrai, mais là ils ont une génération quand même assez fantastique, et c'est vrai qu'il faudra que Southgate, qui a un petit peu la pression sur lui aussi, mais s'il trouve la bonne formule, ça peut vraiment être intéressant pour eux.
Jérôme, tu les vois comment, les Anglais?
Oui, mais Julien a bien résumé, ils ont une bonne génération, et tous les joueurs qui jouent sont des titulaires indiscutables dans leur club et des bons clubs en Angleterre. Donc rien que pour ça, et voilà, il a créé une dynamique de groupe, ça se traduit par les résultats et on sent que ils sont contents de jouer ensemble, contrairement à des générations où tu ressentais surtout sur les compétitions par moment ce manque-là. Là il y a ça. Après c'est toujours pareil, les Anglais, t'as beau, et puis c'est pas que les Anglais hein. Des fois tu domines, archi domines tes matchs de qualification, et puis t'arrives sur la compétition où là c'est pas la même préparation, c'est pas la même attente, il y a beaucoup de pression, et c'est vrai que cette jeunesse par moment leur fait défaut, et c'est pas par moment, c'est tout le temps ces Anglais hein, depuis pas mal de générations. Donc voir comment ils géreront tout ça, j'ai encore des doutes de ce côté-là.
On doit libérer Julien Laurence, il me semble. Julien, merci beaucoup.
Merci à vous, messieurs. Bonne fin d'émission.
Et on va enchaîner avec l'Allemagne. Alors, on rappelle quand même que l'Angleterre joue dimanche en Albanie pour le match de ce week-end. Et on va passer à l'Allemagne. Donc, victoire 3-0 face à l'Islande. Et effectivement, on a l'impression du retour du rouleau compresseur, Polo.
Alors, il y a plusieurs informations qui sont très, très importantes. Un, tu as tout à fait raison, l'Islande n'a pas existé hier, mais surtout l'Allemagne a marqué dès la deuxième minute. Et lorsqu'on parle d'efficacité, c'est ce qu'on reproche notamment offensivement à l'Allemagne depuis, on va dire, l'avant-Coupe du Monde 2018. Et hier, c'était assez impressionnant la façon dont les Islandais étaient menés 2-0 après 7 minutes et par un style de jeu qui fait extrêmement plaisir. La deuxième information qui est très importante, c'est qu'en Allemagne, on parle d'un redémarrage pour un nouveau départ suite à l'annonce du départ justement du Bundestrainer Löw après l'Euro 2021, comme si cela avait libéré un petit peu cette génération. Éclatons-nous pendant l'Euro et on verra bien ce qui se passera après. Et la troisième chose, c'est que ce match était plus important qu'on veut le dire, notamment pour les têtes, parce qu'on sortait d'une claque reçue face à l'Espagne le 6-0, et il fallait absolument montrer qu'on était capable. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tout le monde est content, y compris Uli Hoeneß, donc il faut le saluer. Donc la presse est dithyrambique, on a retrouvé quelque chose, on a joué en 4-3 qui pose d'autres types de questions, puisque Gundogan est évidemment dans la forme de sa vie. On est au milieu du Bayern avec Goretzka et Kimmich. Quid de Toni Kroos, qui est théoriquement un titulaire? Quid d'Havertz, qui était titulaire hier, mais on sait que ça va être Werner? Qu'est-ce qu'on fait avec le retour des anciens Thomas Müller, voire Jérôme Boateng en défense? Ça change beaucoup de choses. Mais en fait, si vous voulez, c'est des questions entre guillemets positives. Et ça, la prestation de hier, qui évidemment est à confirmer, a fait que, on va dire, que la presse allemande au minimum a retrouvé le sourire.
Ça on peut le comprendre effectivement, et surtout quand on voit le 11 quand même allemand, enfin moi je trouve qu'il fait peur hein, Polo.
Il fait peur, je réagis là-dessus, il fait peur, mais bon, Havertz, c'est, même si ça va mieux depuis deux matchs avec Chelsea, il est en difficulté cette saison.
Polo pense à qui à la place
de Havertz? Sané n'est pas
À Werner, oui.
Ouais, et puis Sané n'est pas un titulaire indiscutable au Bayern aussi, avec Gnabry et Coman. Bon, voilà, ça reste des bons joueurs, mais je suis désolé, moi, une sélection qui gagne les grandes compétitions, en général, c'est que les 11 joueurs sont des titulaires indiscutables et brillent dans leur club.
Hein. Mmh. Oui, non, mais après, ça peut s'entendre. On va continuer. Oui, comme Giroud, bien sûr. Non, mais Giroud, il joue pas. On t'a dit qu'il jouait pas. Il a mis 11 buts, mais il joue pas. Voilà. Voilà. Dans une seconde, on continue sur l'Allemagne.
Ça, à la Coupe du Monde, combien de buts il avait marqué, Giroud?
Un, mais Mbappé lui a piqué.
Non. Effectivement.
On continue sur l'Allemagne dans une seconde et on parle de l'Italie également. La sélection italienne et également ce qui s'est passé au niveau des droits télé en Italie. Johan Crochet va nous en parler dans une seconde. À tout de suite dans Rotten Régal.
RMC. 18h-20h. Rotten Régal. Jean-Louis Tour,
Jérôme Rotten.
19h13 toujours dans Rotten Régal, bien sûr. Allez, on continue, Jean-Louis, avec Jean-Michel Larquet, bien sûr, avec le multiplex européen et nos correspondants.
Exactement. Et ne ratez pas à 19h30 le coup de gueule dans Rotten Régal d'un ami de 30 ans de Michel Hidalgo qui nous a quitté il y a un an et qui déplore que la Fédé n'ait pas rendu un hommage à la hauteur de l'ancien sélectionneur des Bleus. Ce sera tout à l'heure à 19h30. Mais donc, on est toujours avec Johan Crochet et Paulo Breitner pour évoquer les sélections étrangères. On était donc sur l'Allemagne. On oublie totalement Polo, puisque je reviens sur les résultats. Le 6-0 en Espagne, le match précédent, alors ça commence à remonter, hein, c'était il y a longtemps, mais il est quand même encore dans les têtes ou pas?
Il est dans les têtes dans le sens où ça concluait un cycle, on va dire, qui a commencé pendant la Coupe du Monde 2018, qui a continué pendant les tournois allemands qui ont été extrêmement délicats. On considère que le match contre l'Espagne, n'était pas important. Puis quand tu te prends 6-0, tu te rends compte que c'est important quand même, rien qu'au niveau du mental. C'est-à-dire que les Espagnols peuvent se servir de cette victoire pour construire quelque chose. Alors celui qui a le plus dédramatisé, c'est évidemment Yogi Löw, parce qu'il a considéré que ce n'est pas que ça peut arriver une fois de temps en temps comme ça. Mais si tu veux, le problème c'est que depuis l'échec de la Coupe du Monde 2018, il a essayé différents schémas de jeu, il a essayé différents joueurs et on n'arrivait pas exactement à voir ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire qu'on est passé d'une domination, de possession ultra, on va dire, de l'équipe d'Allemagne à un jeu entre guillemets à la française beaucoup plus solide où on se mettait en contre. Donc si tu veux, tu peux pas du jour au lendemain changer comme ça. Il a évidemment banni entre guillemets les anciens, Thomas Müller, Hummels, Boateng, etc. Certains sont partis d'eux-mêmes, je pense à Mesut Özil évidemment, mais si tu veux, on savait pas trop où ils voulaient aller. Et puis n'oublions pas que Yogi Löw, ça fait longtemps qu'il est là, donc les gens, que lorsqu'ils ont reçu l'information comme quoi il a finalement arrêté après l'Euro 2021, et ben on s'est dit, ah peut-être que ça va être le moment de changer et de faire un petit spectacle lors de l'Euro 2021. Et donc cette défaite contre la 6-0 contre l'Espagne, ça a permis, si tu veux, aux gens de se dire, oula, on est encore friable, mais quand même, le match de hier, évidemment, contre l'Islande, et évidemment, ce n'est que l'Islande, a permis de se dire, oula, il y a quand même des choses assez intéressantes. Et ce qui est très intéressant, et ce qui est noté dans la presse allemande, c'est que, un, le groupe est derrière son sélectionneur, comme on en dise, et deux, ils ont retrouvé une forme physique qu'on n'avait peut-être pas vue depuis longtemps. Et ça, moi, je pense que c'est très, très important.
Vous pensez, Jean-Michel et Jérôme, que le fait que son destin soit déjà scellé, qu'on sache déjà qu'après l'Euro, ce soit terminé pour lui, ça peut changer les choses positives pour son équipe, ou ça change pas grand-chose?
En tout cas, les choses sont claires pour les joueurs. Je ne sais pas si ça change grand-chose. Reste quand même que c'était l'Islande. Je crois que l'équipe de France, lors d'une compétition officielle, avait réussi à mettre 5 buts à l'Islande,
l'Euro 2016.
Me semble-t-il, à l'Euro 2016. Donc l'Islande, c'est quand même 500 000 habitants. Et on ne peut pas avoir une sélection islandaise qui tient la dragée haute à une équipe qui a, je sais pas, 80 millions d'habitants en Allemagne,
oui, c'est ça.
À peu près, voilà. Donc c'est quand même 3-0, c'est pas non plus une victoire exceptionnelle. Bon, c'est vrai, au bout de 7 minutes, il y en avait déjà 2 dans la cage islandaise. C'est mieux pour les Allemands. Ça ne me semble pas être redevenu l'équipe que l'on avait battue par miracle 1-0.
Quand ?
Lors de l'Euro ?
Non, 2-0. À l'Euro 2016 ?
2-0. Oui. 2-0.
Oui, mais bon, par miracle, on avait galéré. Ouais.
Ah oui, oui.
Moi, la France avait été supérieure, moi.
Ah bah oui,
nous, en première mi-temps.
À la première mi-temps, on avait plus de leçons, Polo. Hein.
Ah, je pense qu'on avait un petit peu galéré. En fait, peu importe, on l'avait gagné, mais l'équipe me semblait meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il me semble que l'équipe d'Allemagne est sur le chemin du renouveau. Elle n'est pas encore la grande Allemagne que j'ai connue lors de la Coupe du Monde au Brésil, par exemple.
Ouais. Bon, elle peut pas encore l'être parce que c'est la nouvelle génération, c'est des jeunes joueurs. Alors il reste des anciens, hein, bien sûr. Hein, Paulo nous le disait, mais t'as quand même un milieu de terrain qui est. Je pense que ils auront tous trouvé leur position, Goretzka, Kimmich, Gundogan, c'est vraiment très solide. Gnabry, Sané. Bon, je disais que Sané n'était pas titulaire, mais ça reste quand même Werner.
Ça fait peur quand même.
Oui, non, mais après c'est toujours pareil. T'as les individuels, t'as les noms qu'on met en avant parce que ces joueurs-là sont capables de briller dans leur club. Après en sélection, il y a aussi
pour en faire un collectif, etc. Contraire.
T'as le poids de la sélection aussi en Allemagne.
Oui, bien sûr. Il y a quand même une grosse ossature Bayern et il me semble quand même que de ce côté-là, c'est un avantage pour se refaire une santé. Pardon.
Et l'avenir du sélectionneur, Jérôme.
Tu as le oui. Bavarois, c'est...
Ouais, ça va loin. Jérôme, je reviens sur ma question sur le sélectionneur. Qu'il ait clarifié sa situation, son avenir, ça change quelque chose pour les joueurs?
Il était temps, hein, de toute façon, parce que.
Ah, mais du coup, c'est plus un sujet. Avenir, le fait qu'il soit là depuis trop longtemps, qu'il soit usé, etc. Enfin, j'imagine que c'est moins un sujet en Allemagne.
C'est à moi un sujet en Allemagne parce qu'en fait Jérôme l'a très bien dit, ça suffisait quoi. C'est-à-dire la Coupe du Monde 2018, c'est compliqué. Les deux années après ont été compliquées, notamment pour des qualifs ou des matchs contre des grosses équipes, etc. Où on est que l'Allemagne est capable d'aller l'emporter aux Pays-Bas, puis ils font n'importe quoi à domicile. Il y a des choses comme ça qui fait que si tu veux, ce qui a été ressenti en Allemagne, c'est merci Yogi de nous avoir revenus sur le toit mondial en 2014, mais maintenant tu passes la main quoi. C'est-à-dire c'est ça qu'on attendait un petit peu.
Salut Yogi.
C'est comme ça, Joachim, c'est Yogi.
Bien sûr.
C'est un ami.
et donc en fait, bon, évidemment aujourd'hui, il y a qu'est-ce qu'on va faire après 2021 c'est très spéculatif. Bon, moi, je suis quasiment sûr que ce sera l'actuel coach du 2021 qui le sera d'ailleurs, le Stefan Kuntz qui sera Bundestrainer, mais c'est sûr que ça a fait du bien.
Très bien, on laisse l'Allemagne de côté, on part en Italie, ça vous va? Victoire 2-0 sur l'Irlande du Nord, donc. Et je regardais l'Italie qui enchaîne pas mal de victoires quand même, Johan.
Ouais, ils en ont enchaîné 10 lors de la phase de qualification à l'Euro. 10 victoires en 10 matchs. C'était pas un énorme groupe, puisque je rappelle, il y avait la Grèce, la Bosnie, la Finlande, le Liechtenstein aussi de mémoire. Mais bon, quand même, 10 victoires en 10 matchs, c'est assez rare pour être
sûr. Nous, on est sûr de ne pas le faire, là, sur cette campagne.
Ouais, exactement. Et l'Italie, c'est peu habituel aussi, en phase de qualification. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a mis en place Mancini, c'est-à-dire que, rappelez-vous qu'il arrive après l'énorme échec de 2017, c'était les playoffs pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. L'Italie ne fait pas la Coupe du Monde. C'est un vrai problème. Il y a un énorme échec. Il y a même un désamour avec les supporters. Et Mancini arrive à amener des jeunes joueurs, amène du jeu, amène une équipe un peu plus proactive avec de la prise de risque, avec un football assez attractif. Et en fait, ça a matché assez vite. Et notamment, les jeunes joueurs se sont très vite appropriés cette équipe nationale. Je pense à Nicolò Barella. Je pense même à Locatelli qui est arrivé il y a pas très très longtemps, Spinazzola sur le côté gauche, Donnarumma dans les buts, c'est réglé, il a très bien pris la suite de Buffon, Lorenzo Insigne qui est devenu un patron aussi de cette équipe là. Donc il y a tout un travail qui a été fait de manière très intelligente et très fluide en fait, et ça porte ses fruits. Alors là, le match contre l'Irlande du Nord, honnêtement, les Nord-Irlandais sont venus avec une défense à 5, avec beaucoup de densité, etc. Ils ont plié ça en première mi-temps grâce à des buts de notamment d'Immobile et de Berardi, mais la deuxième mi-temps était plus poussive. On a senti une Italie qui essayait de gérer, sauf qu'elle ne sait pas gérer encore, elle n'a pas l'expérience pour le faire, le vécu international. Prenez des joueurs comme Locatelli, comme Barella, comme même Lorenzo Pellegrini de la Roma. Quelle est la réelle expérience, rien que européenne, au-delà même d'international, de ces joueurs-là qui étaient les titulaires au milieu de terrain, même de Domenico Berardi, etc. Donc voilà, Mancini.
Mais le milieu là, Johan, je te coupe, mais le milieu qui a été mis en place là contre l'Irlande du Nord, donc c'est Locatelli, Verratti et Pellegrini, c'est ça?
Pellegrini, ouais.
C'est ça. En fait, il y avait pas. Si la question, j'essaye de devancer ta question sur Barella, peut-être.
Ouais. Vas-y.
En fait, si tu veux, il est arrivé après les autres au rassemblement parce que l'Inter, il y avait beaucoup de cas de Covid. Et en fait, ils ont eu l'autorisation des autorités sanitaires italiennes pour se rendre au stage. Un peu à la dernière minute. Donc il a pas voulu le mettre sur ce match-là titulaire. Il est rentré en deuxième mi-temps. Il est rentré à l'heure de jeu. Mais voilà, ça veut pas dire que Barella a perdu sa place. Bien au contraire.
Non. Mais c'est ça. Non. C'était.
Et Jorginho,
j'étais étonné
lui,
de pas le voir.
Et Jorginho, lui, était absent. Il est pas au rassemblement. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y avait un milieu de terrain un peu new look qui a pas forcément été exceptionnel. C'est plutôt devant que ça a été plutôt pas mal avec Lorenzo Insigne notamment. Florenzi fait un bon match, mais voilà, c'était une victoire tranquille. On attend de voir. De toute façon, ce groupe-là, je suis pas sûr qu'il nous apporte beaucoup de réponses parce que au-delà de ce match contre l'Irlande du Nord, il y a ensuite la Lituanie, la Bulgarie dimanche, la Lituanie mercredi prochain, et ensuite par contre il y a un révélateur qui devient un peu plus intéressant avec la Suisse.
Très bien. Vous voulez ajouter un mot sur l'Italie, messieurs?
Non, moi,
on est quand même loin, Johan, c'est dommage, mais on est quand même loin des grandes équipes de l'Italie, et ils ont besoin quand même de retrouver quelques grandes stars. On va pas jouer les anciens combattants, mais bon, quand on voit l'équipe d'aujourd'hui et celle qu'on a connue auparavant, il y a encore un tout petit peu de chemin à parcourir.
Ah oui, totalement, tu as tout à fait raison, Jean-Michel, il y a un vrai chemin encore à faire. Et puis il faut pas oublier que là, les stars, en quelque sorte, c'est la charrière centrale, c'est Chiellini, Bonucci, ouais. C'est-à-dire des joueurs d'un statut international, et c'est les vieux, donc ils vont pas tarder à passer la main.
Comme sur RMC.
Donc il va falloir trouver aussi une nouvelle assise défensive. Donc il y a encore un long chemin, mais c'est prometteur.
Très bien. Et puis, Johan, profitons de ta présence quand même, parce qu'il y a eu une nouvelle importante. Ça pourrait peut-être avoir des conséquences à un moment sur d'autres marchés. Mais donc, il y a eu l'appel d'offres pour les droits télé en Serie A pour la période 2021-2024.
Non.
Oui, Captain. C'est pas Mediapro qui a gagné. C'est une plateforme de streaming qui a gagné, DAZN.
Exactement. Alors, pour info, Jean-Michel, Mediapro a fait une offre sur les droits internationaux pour la Serie A. Voilà, petite info au passage. Mais oui, c'est DAZN qui a remporté les droits nationaux. 840 millions d'euros. Alors, ils ont pas tout. Ils ont 7 matchs en exclusivité et 3 en co-exclusivité. Donc, ils ont quasiment tout. Mais ils ont offert 840 millions d'euros. Il reste un petit paquet à obtenir. C'est les 3 matchs en co-exclusivité. Qui va les diffuser? Sky Italy, qui est le partenaire historique, ça fait 20 ans qu'il diffusait la Serie A, a proposé 70 millions d'euros, mais ça négocie, ça n'a pas été accepté aujourd'hui, sachant que l'appel d'offres, la validité se termine lundi, donc si lundi on n'a pas d'accord sur ce paquet-là, il est remis en jeu sur un nouvel appel d'offres, pardon, et il y a d'autres diffuseurs, je cherchais le mot, qui sont intéressés. Donc on pourrait encore grappiller quelques millions.
D'accord.
Mais pour vous faire simple, il y avait 973 millions d'euros entre 2018 et 2021. Là, aujourd'hui, alors il y a 840 millions d'euros, 70 millions d'euros à peu près garantis par Sky, mais ça peut être un peu plus, 910. Mais Jean-Michel, il y a un truc que les gens oublient, c'est qu'entre 2018 et 2021, la Serie A versait 55 millions d'euros à Infront, qui avait agi comme conseiller lors de l'appel d'offres précédent. Ouais. Et là, ils ont fait 100 Infront. Donc tu rajoutes encore 55 millions d'euros que tu ne vas pas dépenser, et tu arrives quasiment à ce qui était proposé avant. Et oui, la seule crainte qu'il y a sur DAZN, c'est les infrastructures en Italie. Alors, OK, ils se sont associés à Telecom Italie, TIM, mais en Italie, vraiment, les infrastructures Internet sont bien loin de certains pays européens, à commencer par la France, par exemple.
Ouais.
Donc, il y a quand même petite crainte sur est-ce qu'on va vraiment recevoir les matchs du championnat italien en bonne qualité, sans bug, etc. Il y a quand même petite crainte sur le passage au
100%. En noir et blanc, c'est bien.
Ouais, Polo, bien sûr.
DAZN. Bon, moi, je suis un grand fan de DAZN, hein, par exemple, au niveau de la.
Ils font du très bon boulot en Italie.
De qualité, formation des images, etc. La deuxième chose, c'est ce que dit Johan, est très important, mais ça confirme ce qui s'est passé en Allemagne, où on savait pas trop si c'était entre guillemets une défaite ou pas la baisse des droits de télé pour l'année prochaine, à partir de l'année prochaine. 2021-2025, ils avaient baissé de 5% en globalité par rapport à 2017-2021. Ce que je constate, c'est que la pandémie et choses comme ça fait que comme si on avait atteint un plafond de verre au niveau des droits télé nationaux, en tout cas. C'est-à-dire que ça se joue à presque rien, en fait.
Mais tu sais, Polo, qu'en Italie, il y a plein de présidents qui ne pensaient pas arriver à un tel montant.
Exact. Et ben c'est la même chose en Allemagne. Les 5% de baisse, si tu veux, c'était considéré comme un miracle. Quoi.
D'accord. Merci, messieurs. C'était merci. Passionnant. Yoann Crochet.
On est à 5%. Non, on n'est pas à 5%. Nous,
on est... Ah, nous, on est un peu plus que 5%.
Ouais.
Mais il y a eu d'autres problèmes. Il y a eu d'autres soucis.
Nous, je crois que le plafond de verre, il a craqué, nous.
Oui, c'est ça.
Il a explosé, ouais.
On revient, nous, c'était le plancher de verre qu'on avait explosé. Donc, on a dû creuser. Dans une seconde, la Fédération française de foot a-t-elle un problème avec son histoire? Michel Hidalgo nous a quittés il y a un an. Très peu d'hommages rendus pour le sélectionneur. On en parle dans une seconde dans Rotten Régal. À tout de suite.